Ensemble, nous allons entrer dans la réserve naturelle du delta de la Soer, à Münchhausen. D'un pas tranquille, commence ta route jusqu'au croisement. Attention au vélo. Pendant cette balade, nous ferons des pauses qui nous permettront de nous retrouver. Donc n'hésite pas à trouver ton propre rythme de marche, ton propre confort, et à t'arrêter quelques instants quand tu le souhaites, ou mettre ton lecteur en pause. Pour une meilleure expérience, le son que tu entends maintenant doit être à ta gauche. Et le son que tu entends maintenant doit être à ta droite. Nous allons serpenter au fil de l'eau, au fil des saisons, et emprunter parfois des chemins plus touffus. Les voix seront tes guides. Parfois, elles te parleront de choses que tu ne verras pas, et parfois, tu verras des choses dont elles ne te parleront pas. Ne t'en étonne pas. Ici, les réalités se troublent et les temps se mélangent. Si on te parle d'un arbre, d'une fleur, d'un animal, tu ne le verras peut-être pas au même moment. Mais reste à l'écoute. Tu le devineras peut-être plus tard. Bientôt, tu vas arriver au croisement. Ne t'inquiète pas si tu n'y es pas encore. Prends ton temps. Tu verras un sentier de terre tout à gauche. Emprunte-le. Si ta mobilité est réduite, tu peux continuer sur la piste goudronnée de gauche. Attention au vélo. Bon voyage. Nous entrons dans un espace fragile. Lieu de vie, d'habitation et de repos pour de nombreuses espèces végétales et animales. C'est le Conservatoire des espaces naturels d'Alsace qui gère cet endroit. Il met en place de nombreuses actions de protection pour ces espèces. Pour les aider, restons sur les chemins. De même, la cueillette est interdite.
On voit un tapis d'herbes, mais quand on sait les différencier, il y a plein d'espèces qui poussent ici et qui ne poussent plus nulle part ailleurs en Alsace. Et on a les dernières stations de bon nombre d'espèces de fleurs et en très belle population, c'est-à-dire qu'on a vraiment la chance d'avoir des centaines de pieds d'espèces protégées. On a vraiment la chance et le devoir en même temps de protéger ces espèces-là qui sont les dernières. C'est un peu comme une zone refuge.
Quand je suis arrivée, elle était encore là. Elle m'a dit « Regarde » en me montrant une chenille qui se cachait sous une feuille. Puis elle a fait surgir des liquides jaunâtres en pressant des fleurs entre ses doigts et en m'expliquant ce que la nature en faisait. Je lui ai dit « Mais enfin, toi tu sais tous ces lieux et moi je vois rien. » Elle n'a pas cherché à me rassurer, elle m'a plutôt lancé un regard de défi et m'a dit « Oui, on ne voit rien, mais si tu restes, si tu prends le temps, alors tu en sauras autant que moi et tu verras ce que moi je vois et ce que j'entends. Car tu es comme les autres, tu parles que de ce que tu veux voir et tu oublies ce qui se touche, ce qui se sent. » Et ceux qui s'écoutent.
Alors là, on arrive dans un endroit un peu particulier de la réserve, parce qu'on est vraiment aux limites de cette grande prairie qui s'appelle le Großwörth. Et on longe le bras à notre gauche et on arrive dans ce petit endroit qui est très sympathique parce que les arbres ont pris le pas à droite et à gauche de notre sentier. Et nous découvrons là devant nous un très beau chêne que l'homme et la nature ont su sculpter ensemble. Et on voit les branches qui s'enveloppent avec l'arbre et il nous offre une silhouette assez sympathique. Donc profitons de ce petit sentier dans le calme et l'obscurité de la forêt.
Est-ce que tu sais entendre le son de ma voix avec tous tes organes? Est-ce que tu sais m'entendre avec ta peau? Est-ce que le son de ma voix peut rejoindre le sang qui circule en toi?
Et alors là, on est arrivé à une espèce de plan d'eau hein, sur notre droite. C'est l'ancienne gravière qui était exploitée par la commune de Münchhausen. Alors vous voyez, il y a un peu de grillage autour, mais il y a une partie qui est accessible de l'autre côté. Il faut savoir qu'avant les années 90, le Rhin pouvait venir inonder tout le secteur, et notamment le Brin qui se trouve sur notre gauche. Il y avait une sacrée pression quand le Rhin était en crue. Les habitants du village tournaient partout autour sur les digues du village pour être sûr que tout se passe bien, que les crues ne cassent rien. Et effectivement, il y a une partie de la diguette là qui a été cassée et ils ont comblé la brèche au niveau de cette diguette là. Mais là, maintenant, elle n'est plus du tout exploitée et elle offre un biotope vraiment sympathique pour la réserve. On peut y trouver même notre plante carnivore locale au niveau de ses eaux phréatiques, c'est l'utriculaire. Une petite fleur jaune qui flotte au-dessus de l'eau. Elle fleurira au mois de juillet. Mais si on se rapproche, on peut carrément voir la fleur de près hein, parce qu'elle fleurit vraiment partout.
Imagine-toi ici, il y a 200 ans. Tous ces espaces que tu vois là étaient beaucoup plus vastes. Sauvage, impétueux, le Rhin s'étendait sur des kilomètres et ses bras changeaient de visage au fil des crues, détruisant parfois des villages entiers. Les moustiques, nombreux et voraces, transmettaient alors la malaria. Au XIXe siècle, un ingénieur allemand, Johann Gottfried Tulla, entreprend de domestiquer le Rhin pour protéger les populations des crues, des maladies et afin de rendre le fleuve prospère. On réussit à réguler l'écoulement de l'eau. Les crues maîtrisées, la frontière naturelle entre la France et l'Allemagne se fige. Fini les méandres capricieux de la nature, place aux lignes droites et aux champs fertiles. Ce qu'on appelle le caractère alluvial, des prairies et des forêts, qui étaient autrefois inondées et donc enrichies par les crues du Rhin, se perd petit à petit. Et c'est ce qui cause la destruction de l'espace de vie unique d'une multitude d'espèces. La réserve naturelle protège ce qui reste de cette zone humide et permet d'entretenir le vivant et les diversités qu'offre ce milieu typique rhénan. Ici, de nombreux projets auraient pu voir le jour. Champs de maïs, ports de plaisance. Il a fallu beaucoup d'énergie, de conviction et de nombreuses concertations entre des personnes aux intérêts variés pour qu'enfin, en 1997, cet endroit soit classé réserve naturelle de France. Une réserve naturelle, c'est une partie du territoire où la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et fossiles et en général, tout un milieu qui représente une importance particulière est protégé.
Vous entendez le sifflet, là ? C'est le sifflet du martin pêcheur. On l'entend avant de le voir, souvent, hein, parce que quand il s'envole, il émet un petit coup de sifflet comme ça, et puis il passe à toute allure. Alors, il faut vite regarder d'où vient le bruit et voir si on n'a pas du bleu qui passe. C'est souvent bien la seule chose qu'on peut voir du martin pêcheur, tellement qu'il va vite. Et d'ailleurs, on entend le coucou. Et alors, souvent, on parle de la bave de coucou. Et juste devant nous, on a une plante là qui a du blanc. Là, c'est comme de la bave, vous voyez là ? Ça peut être dans l'herbe ou dans les arbres. Et là, quand on regarde la bave de plus près, on a quelque chose dedans. Alors, il ne faut pas avoir peur de se mouiller les doigts parce qu'on a... Vous voyez là une petite bestiole qui est tout mini rikiki et c'est la cicadelle écumeuse. Donc ça, c'est le bébé de la cicadelle. Vous voyez, elle est sur ses pattes hein, quand on la sort du nid. Et en fait, donc cette bave-là, eh ben, ça lui sert de maison jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour se débrouiller toute seule. Alors là, je suis pas sûre qu'elle soit déjà assez grande, hein, donc je vais la remettre dans un autre truc de bave. Et donc la cicadelle écumeuse est un insecte tout petit. Donc comme tous les insectes, elle a besoin de faire plein de bébés pour être sûre d'avoir quelqu'un qui lui survive. Et donc comme elle ne sait pas faire de nid comme les oiseaux ou faire un trou dans la terre comme les blaireaux, elle a trouvé le petit truc de fabriquer de la bave. Et elle va pondre ses œufs dedans et puis après elle les laisse se débrouiller. Hein. Les insectes sont comme ça. Hein. Souvent les arbres goûtent et on a l'impression que le sol pleure hein, parce que c'est souvent le sol qui est concerné.
Continue tout droit et arrête-toi au niveau des barrières vertes et du panneau explicatif.
J'aime ce chemin en hauteur. Ça me donne l'impression de dominer le paysage.
Imagine, dans 200 ans, que pourrait-il y avoir ici ? Une steppe battue par les vents ? Un lac ? Une forêt de pins maritimes ? Selon le moment de ta visite, tu peux voir à ta droite une prairie verte et fleurie durant le printemps et l'été, ou une vaste étendue d'eau. Car sous tes pas, sous la terre, il y a l'eau. La plus grande nappe phréatique d'Europe s'écoule immuablement à travers le gravier. Quand les neiges des Alpes fondent, au printemps, l'eau qui coule vient alimenter les nappes phréatiques et le Rhin, ce qui provoque des crues. Et ces crues inondent la prairie.
J'aime le vent, il rompt la monotonie, il balaye le passé et amène le renouveau par les graines qu'il disperse, et puis qui donneront des fleurs ou des arbres. Le vent tourbillonne et envahit l'espace aussi. Parfois c'est si puissant, j'entends plus de pluie. Avec le vent, je perds mes repères, mes pensées s'embrouillent, ça peut être troublant. Alors quand ça souffle très fort, quand il siffle et quand il fouette, je préfère rester où je suis et ne plus bouger.
Arrête-toi quand sur ta gauche et ta droite, tu verras des barrières vertes. Il y aura aussi un panneau explicatif avec le chiffre 4. Si tu es sur la route, continue ton chemin et trouve un endroit à l'ombre où t'arrêter.
Il pensait que les maladies venaient des vapeurs qui s'élevaient des sols de la forêt. La malaria, c'est le mauvais air. Comme une malédiction qu'on pouvait deviner. En supprimant toutes les forêts alluviales, ils ont tué les moustiques. Et les maladies s'en sont allées. Mais à nouveau, il y a la forêt. Et de nouveaux moustiques. Mais à ton époque, tu ne crains sans doute rien.
De nos jours, à Münchhausen, le Rhin est bien rectifié, mais il n'est pas canalisé. C'est ce qu'on appelle le courant libre.
Quand une crue du Rhin arrivait, elle arrivait souvent très vite et avec beaucoup, beaucoup de courant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là devant les yeux. Il faut savoir que les habitants de Münchhausen traversaient en barque de l'autre côté du Rhin pour aller chercher du bois ou du foin. Et donc là, il fallait vraiment être bon navigateur en barque à fond plat. Alors le Hougomon, c'était vraiment l'histoire pour faire peur aux enfants afin qu'ils n'aillent pas rôder au bord du Rhin, quoi.
La forêt a longtemps été une zone marginale, un lieu entre les mondes, dans lesquels se côtoient esprits, morts et vivants. De même, l'eau est considérée comme un lien entre ces mondes. Ici, dans cette forêt, un être habite dans les bras du Rhin et attrape les enfants qui osent s'approcher trop près du bord, les entraînant au fond de l'eau avec son long crochet.
Ils étaient happés par le courant, il n'y a rien qui pouvait les retenir, quoi. Ils étaient accrochés par le crochet.
Depuis toujours, on a fait peur aux enfants. Moi, j'ai rencontré plusieurs hommes au crochet. Je portais un bandeau sur l'œil droit. Et on m'a demandé, t'es blessé? Moi, je répondais, non. Mais je ne veux plus voir que la moitié du monde. Alors je suis partie dans la forêt. C'est là que j'ai tout appris.
Reprends ton chemin et continue tout droit. Derrière toi, ne manque pas d'observer la roselière, un autre milieu très important pour la réserve, notamment pour les oiseaux migrateurs et les amphibiens, grâce à ses nombreuses mares.
Donc la roselière qui est constituée de roseaux et qui offre l'abri à un bon nombre d'espèces, dont la rousserolle effarvate, qu'on peut peut-être entendre si on fait attention. C'est une petite pipelette. Hein. La rousserolle, elle va chanter. Voilà. Elle va pas arrêter de nous parler, quoi. Hein. Donc là, on la reconnaît bien. C'est l'endroit aussi où on peut trouver les rainettes vertes, les grenouilles vertes, les grenouilles agiles aussi, et le pélobate brun, quelques espèces de tritons aussi.
Tu vas bientôt voir sur ta gauche un sentier qui descend. Emprunte-le jusqu'en bas. Tu peux t'arrêter sur la berge. Si ta mobilité ne le permet pas, tu peux marquer une pause quand tu le souhaites.
J'effectue aussi des prélèvements de son. Comme on prélève quelques décilitres de la rivière pour analyser la qualité de l'eau, je capture les sons. Je préserve ceux qui vont disparaître et j'accueille ceux que je n'avais jamais entendus. Un nouveau battement d'ailes, un nouveau chant, des nouveaux cris. Je tente de suivre le son de l'inconnu pour aller à sa rencontre. Mais une nouvelle espèce ne se laisse pas approcher si facilement. Quand je suis tout près, je me cache pour ne plus faire de bruit. Les nouvelles espèces apparues se méfient de moi. Elles devinent ma présence. Alors le son s'éloigne. Un éclair bleu passe devant moi, telle une fusée. Et je ne sais toujours pas à quoi ressemblent ces nouveaux voisins.
T'as vu là dans la digue, il y a des trous. Des fois, il y a des trous. Alors on pense que c'est des chiens, mais pas forcément. Si on regarde de plus près, il peut y avoir les alvéoles d'insectes type guêpes, abeilles et tout ça. Mais on a une famille de blaireaux là qui s'est établie dans la prairie. Et le blaireau aime beaucoup manger les larves des insectes là comme ça, des guêpes. Et du coup, des fois, il nous abîme un peu le petit sentier, la digue. Alors faites bien attention où vous mettez les pieds. Hein.
Descends sur le sentier à ta gauche et arrête-toi tout de suite au bord de l'eau.
On a ici un bel aperçu de ce que pouvaient être les anciens bras du Rhin avec les saules qui poussent en face de nous. Ces saules têtards qui sont vraiment présents sur l'ensemble de la réserve et qui nous proposent un paysage et une ambiance vraiment très particulière. Je dirais la nature secrète, un peu cachée comme ça, c'est ces paysages qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir. Et c'est comme si la nature, elle nous laissait entrevoir ce qu'elle pouvait être, si on lui laissait un peu plus de place, effectivement.
L'imbrication des différents milieux de la réserve réalise des ensembles interdépendants de grande productivité biologique. Ici, on pratique le principe de libre évolution. Le milieu se développe sans intervention.
Ici, c'est la dernière pouponnière du Rhin. Hein, une des dernières, hein, on ne va pas limiter non plus, mais on a vraiment la chance avec ces connexions avec les différents bras d'avoir des pouponnières partout autour de nous pour les poissons. Mais il faut de l'eau. Alors, on a tous les poissons. D'ailleurs, il y en a deux qui passent là, en surface. Là, on a deux. Alors là, ça, de loin comme ça, c'est pas évident, mais ça peut être des brèmes. On a des carpes, on a des anguilles, des brochets, des perches. Tout le monde attend l'eau ici, quoi. Hein. C'est impressionnant comme tout est lié à l'eau, autant au niveau animaux que végétaux. Donc notre rôle de gestionnaire, ça va vraiment être de faire en sorte que l'eau soit là. D'où viennent les crues qui sont importantes ici? Ça vient de la fonte des neiges. Il n'y a plus de neige dans les Alpes, c'est plus stocké, c'est pris avant. Enfin, le changement climatique, il a des répercussions en chaîne partout, en fait. Jusqu'à très loin, on n'a pas l'impression comme ça quand on le voit de loin. Hein, mais c'est vraiment, on est au bout de l'échelle, là. On voit bien ces dernières années que les quantités d'eau qui arrivent jusqu'à nous baissent, hein, il y en a de moins en moins, et elle est là moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des crues, mais c'est des crues éclairs. Hein. Quand elles arrivent, elles vont partir très vite. Quoi. Elles ne vont pas avoir le temps de rentrer dans le milieu et de nourrir tout le secteur.
Chaque matin, je grimpe à l'arbre le plus haut pour scruter l'horizon. Je m'allonge aussi près des zones asséchées. Je colle mon oreille contre la terre et j'écoute pour savoir si l'eau va revenir.
Ce milieu est intimement relié à l'eau, qu'elle soit présente ou réduite. Ainsi, dans les années exceptionnellement sèches, on trouve les vasières, des grandes étendues de vase ou de sable, dans lesquelles des plantes rares peuvent pousser, profitant ainsi du manque de pluie. Remontons ensemble le sentier et continuons sur le chemin de gauche.
On a quelques espèces de libellules qui sont protégées, des sauterelles ou des grillons. On a des triops, c'est ce qu'on appelle des grands branchiopodes. Mais en fait, c'est des espèces de crustacés, donc c'est des petits animaux qui habitent dans des flaques temporaires, donc préférentiellement sur les chemins. Mais il faut que ces chemins soient inondés plus de 15 jours. Et alors ils apparaissent de nulle part, comme par magie.
Il n'est au monde personne plus heureuse que celle qui vit d'un horizon bien dégagé, disait la divinité Krishna. Es-tu d'accord avec ça? Ou préfères-tu les paysages plus arborés? Ne pas savoir ce qu'il y a de mettre plus loin? Jadis, sur cette prairie, on fauchait. Et lorsque la réserve naturelle a été créée, il a été décidé collectivement d'entretenir ce milieu si particulier. On pratique donc ici toujours les fauches tardives et les fauches échelonnées. Le milieu reste ainsi ouvert. Les arbres ne poussent pas, laissant la place aux plantes et aux animaux de la prairie.
Les choses changent et parfois reviennent. Comme le Deinotherium, l'un des plus grands mammifères terrestres ayant jamais existé. Non mais imagine, cet ancêtre préhistorique de l'éléphant pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres au garrot et peser entre 10 et 14 tonnes. Il y avait aussi une espèce de crocodile de plus de 7 mètres de long. Est-ce qu'un jour ils reviendront? Est-ce que d'autres reviendront? Et toi, reviendras-tu?
Il y a plein d'espèces protégées. Il y a les trois sortes de violettes qui poussent là dans la prairie. Il y a le forbe palustre. Alors les violettes, c'est vrai qu'on connaît vraiment cette petite fleur qui peut pousser dans les bois au bord des chemins. Et ici, dans la prairie inondable, donc, il y en a trois qui sont protégées et patrimoniales. Donc ça veut dire qu'elles commencent à être assez rares en Alsace. Et les euphorbes, qui elle est protégée, c'est la fleur très grande qu'on peut apercevoir vraiment partout autour de nous dans la prairie. C'est des fleurs qui sont vraiment très discrètes, hein, d'un vert jaune. Et à l'automne, on va les retrouver d'une manière plus visible avec ces inflorescences, enfin qui sont devenues les fruits à l'automne, qui sont plutôt dans le rouge orangé.
De nombreux oiseaux migrateurs viennent ici, dont le milan noir. À la fin de l'été, tu pourras même apercevoir des colonnes de cigognes s'entraînant à voler sur cette prairie. Continue tout droit.
Regarde là-haut, tu as un milan noir qui passe. C'est aussi un migrateur qui vient, qui est là que en été. C'est un rapace tout brun. Alors on pense des fois que c'est la buse, mais la buse, elle a un peu de blanc en dessous, au niveau des ailes, hein, alors que le milan noir est vraiment noir.
Suis le chemin sous les arbres jusqu'au croisement, puis arrête-toi.
Avant de quitter le petit sentier, on a un arbuste bon, qui fait quand même sa hauteur là déjà et qui a des baies rouges translucides à l'automne. Et alors ces baies, elles sont rigolotes parce que quand tu appuies un peu dessus comme ça pour pouvoir sentir un peu avoir de sucre sur tes doigts et que tu sens cette odeur, c'est vraiment comme un chien mouillé. C'est la viorne au biais.
Tu es bien au croisement ? Avance-toi entre les deux chemins, plus près du bord, pour observer le paysage. N'hésite pas à faire quelques pas sur ta gauche ou sur ta droite.
Cet endroit-là, je l'appelle la mangrove. Les arbres sombres, peu de lumière, les branches qui semblent barrer le passage. Il m'arrive de descendre dans la mangrove, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je ne pourrais plus m'en échapper. Quel danger rôde ici, à ton avis ? Quel mystère vois-tu dans les branches entremêlées ? On dirait une forêt interdite. Et bien pourtant, je m'y promène. Parfois même en pensée. Peut-être qu'un crocodile va surgir. Peut-être que c'est une forêt sans fin, sans fond. Derrière les lianes, encore des lianes. Et là-bas, tu vois un peu la lumière ?
En fait, c'était en 2004. On a eu une période assez sèche et les graines de saule ont pu germer sur la plage qu'on avait à cet endroit-là. Et les saules ont grandi et forment maintenant cette petite forêt avec que des saules et puis qui donne un peu l'air d'une mangrove. On y trouve plutôt de la couleuvre. Ça, c'est vraiment son milieu parce qu'il va y avoir des grenouilles, des petits poissons. Vous allez d'ailleurs voir chasser le héron cendré, la grande aigrette, en hiver comme en été. Les cygnes aiment bien aussi s'y promener, il y a toujours un peu de végétation à manger. Hein. Quand on les voit farfouiller dans l'eau avec leur bec, c'est quand ils cherchent de quoi manger. Le martin pêcheur aussi peut passer là en volant, zigzagant entre les différentes tiges des saules. Et si on fait doucement, en continuant le sentier, on peut même voir le cygne chanteur qui vient passer l'hiver ici. Et en fait, à chaque fin d'été, à l'automne, quand les feuilles tombent, les feuilles se transforment en humus et apportent de la matière organique. Et inévitablement, ça apporte aussi de la hauteur à la base, quoi. Quand tu regardes là, au pied des saules, tu vois très bien qu'il y a plein de branches qui sont stockées dans le même sens, de tailles différentes. Et ça, c'est vraiment typique des crues, des dépôts de crues, des laisses de crues, comme on dit.
Emprunte le chemin de gauche, il est plat tout le long.
On a le fusain d'Europe, donc c'est vraiment le fusain qu'on faisait carboniser pour les dessins, tu vois, un peu comme le charbon de bois. Donc le fusain d'Europe, lui, fait des fruits en forme de bonnet d'évêque. avec les bosses là. Et en plus, elles sont roses. Et quand ces fruits sont mûrs, quand les graines sont mûres à l'intérieur, le bonnet d'évêque s'ouvre et nous offre une graine orange. C'est vraiment magnifique.
Promène dans cette réserve, mais t'imagines pas que derrière les arbres, à ta gauche, il y a le Rhin, ce fleuve majestueux que tu pourras rejoindre d'ailleurs après cette balade, si tu veux. Quand les digues de l'homme ont domestiqué cette fougue aquatique, quand des barrages ont entravé son écoulement naturel, le Rhin s'est pas laissé faire, il s'est creusé en profondeur, comme un prisonnier qui tente de s'échapper par un tunnel. Les gens ont dû transporter des galets pour colmater ces crevasses, et ça a donné naissance à la gravière que tu vois juste à ta droite. En fonction de la saison, quand tu marcheras, tu sentiras peut-être comme du coton léger sur ta peau, qui chatouille un petit peu, et t'en verras aussi sur le chemin. Si je restais immobile pour l'éternité, cette substance cotonneuse m'emprisonnerait peu à peu, et je ne pourrais plus m'en extraire. Alors je deviendrais comme une statue. Voilà pourquoi je préfère le mouvement en toute chose. Je sais ce que tu te dis. Tu te demandes pourquoi il y a tant d'arbres morts ici et là, qui gisent sur le sol ou qui sont penchés, comme retenus en l'air par d'autres arbres bien vivants, ceux-là. Tu te demandes pourquoi on les enlève pas? Pourquoi on laisse cette jungle? Pourquoi on ne fait pas plutôt place nette? Tu trouves que ça fait un peu désordre?
Ouais, donc ici, tu as un arbre mort, en tout cas un reste d'arbre presque, parce qu'on a du mal encore à voir les branches, mais c'est bien tout. Et le reste est tombé, hein, c'est un ancien saule. Et tu vois tout de suite les trous des pics et les différents insectes. Tu peux avoir vraiment tout un écosystème directement juste avec cet arbre, avec toutes les espèces qui vont être là pour décomposer le bois en tant que tel. Et toutes les espèces qui vont vivre juste dedans pour comme gîte, ça peut être la martre qui va utiliser un de ses trous, ça va être les mésanges qui vont utiliser les anciens trous de pique pour faire leur nid. Donc il y a vraiment tout un champ de possibles grâce à ces arbres qu'on va laisser. Alors on va laisser le bois quand il est encore debout, mais on va aussi le laisser par terre parce que ça va apporter vraiment la matière première nécessaire pour enrichir et redonner l'énergie à toute la forêt.
Tout se transforme en autre chose, tout le temps. La nature se débrouille. Si tu croises un des arbres morts, passe au-dessus de lui ou contourne-le. Thank you. Quand quelqu'un vient, je lui parle parfois depuis la branche de l'arbre. 10 mètres. Toujours 10 mètres tant que je connais pas l'individu. D'abord, je l'écoute pour savoir si son langage est composé de mots que je connais pas. Des mots nouveaux, tu vois, qui ont été inventés à d'autres endroits et qui, grâce à lui, sont venus jusqu'à moi. Ensuite, je les note dans un carnet. Comme ça, je pourrais les faire miens en les répétant et en comprenant leur sens après avoir été sensibilisée à leur musique. Je pourrais les ajouter à tous les mots que je connais déjà. J'aimerais en découvrir chaque jour, mais il vient plus beaucoup d'étrangers. Ou alors, les étrangers se font rares.
Comme l'eau porte, tous les bruits de la nature sont comme amplifiés. Tu as c'est comme une caisse de résonance, ouais, ça vibre différemment et puis ça apporte beaucoup de magie à la nature autour, hein. Autant dans la nature la nuit, c'est impressionnant, mais quand on se rapproche de l'eau et qu'il n'y a personne, c'est vraiment un moment à part.
Sois attentif. Sur ta gauche, tu vas bientôt surplomber une petite forêt de saules têtards. On les reconnaît à leurs feuilles longues et d'un vert gris. Arrête-toi là.
En hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a que des silhouettes. C'est comme un dessin à l'encre de Chine, hein, comme ça. C'est très, très stylisé. Et alors, quand la gravière est gelée et que dans la journée, ça dégèle, si jamais tu te promènes et tu entends craquer, mais très, très fort, c'est la glace qui bouge. Hein. Donc, ne t'effraie pas, c'est pas quelqu'un qui vient vers toi par derrière comme ça pour te faire peur. Hein.
Ici, à ta gauche, les petits saules se sont regroupés et semblent vivre en communauté, à l'abri des grands arbres, comme un village. À moi, ils me semblent familiers et c'est comme si je pouvais leur parler en toute confiance. Ils sont comme à hauteur d'homme et laissent deviner le ciel. C'est comme des amis à qui je peux me confier, quand je doute de tout. Quand je doute de tout, je tente de trouver le sommeil avec eux.
C'est ce qu'on appelle le saule têtard. Dans la réserve naturelle, on a plusieurs milliers de saules têtards. Alors on les appelle saules têtards par rapport au fait qu'on ait enlevé la tête de l'arbre, la partie supérieure. Mais ça va bouger très vite. Là, on voit des petits lutins, mais dans 5 ans, il y aura des grands, grands arbres. Mais du coup, dans cette zone-là, eh ben, s'il y a une graine qui tombe sur la tête d'un saule, ben, elle peut pousser. Il y a un peu de terre, d'humus qui se développe, parce que quand les feuilles tombent, elles tombent tout droit, elles se laissent tomber. D'ailleurs, viens, regarde là. Il y a une autre feuille là, sur ce saule-là, qui est juste au pied de la digue. Il y a la feuille très fine et grise du saule, et à côté, on a une autre feuille, on dirait que c'est de la viorne. On a les baies qui commencent à se former. Donc si tu viens en hiver, tu verras des baies rouges. Le saule ne fait pas de baies rouges. D'accord ? Si tu viens au printemps, tu verras des fleurs blanches. Le saule fait des fleurs en forme de chaton. C'est les chatons qu'on cueille pour faire les bouquets des fois.
Continue tout droit.
Les saules ont souvent les pieds dans l'eau. Jadis, on les étêtait pour entrelacer leurs branches en fascines afin de renforcer les berges. Ils servaient aussi de bois de chauffage. Devenus caverneux en vieillissant, les saules accueillent aussi bien les nichées de canards colverts que celles du putois. Mais le saule constitue aussi une essence dont on fait les sabots. Il est tout à la fois un bois léger, résistant et souple, et qui sèche rapidement.
On avait aussi un monsieur qui faisait des barques à fond plat, qui était vraiment le bateau idéal pour naviguer sur ces anciens bras du Rhin. C'était également utilisé pour la vannerie, bien sûr, hein, les corbeilles qu'on utilisait encore.
Tu me demandes si je me souviens des sons d'hier ? Je me souviens des sons d'avant. L'écoulement tout doux des barques à fond plat sur la Sauer. Les haches et les scies afin de couper le bois de chauffage. Le petit raclement des couteaux affûtés du sabotier. Et le clapotis des outils des pêcheurs du village.
Tous les saules têtards, on aimerait les tailler parce que ça fait partie du patrimoine historique, culturel, naturel aussi. Si on laisse un saule têtard grandir, à un moment donné, le vent va déséquilibrer toute la structure et le risque, c'est que tout l'ensemble du saule s'éclate.
Continue tout droit. Et dès que tu verras un sentier qui tourne à droite, emprunte-le et descends jusqu'à la plage.
Il y a des fois tellement de brouillard que tu ne peux pas voir l'autre côté de la gravière. Alors, les seules choses que tu peux voir, c'est un peu de blanc pour les cygnes. Alors, pour les cygnes, il faut toujours regarder si on voit un peu de noir au-dessus du bec orange. C'est le cygne tuberculé qui est chez nous toute l'année. Mais ce qu'il faut savoir et être attentif en hiver, c'est qu'il y a des cygnes qui nous viennent des pays du Nord, qui sont les cygnes chanteurs. De temps en temps, il y a un cygne béouic qui fait partie de la troupe. Et donc, ces cygnes chanteurs ont le bec jaune. Et donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et puis en plus, ils trompettent. Donc on l'entend vraiment. Si tu entends une trompette quand tu te promènes, c'est le cygne chanteur. Il y a souvent des familles de cygnes chanteurs qui arrivent. Donc on voit les deux adultes bien blancs, avec le bec bien jaune. Et puis les petits qui sont un peu plus sales, on dirait. On dirait qu'ils ne sont pas lavés. Regarde, il y a un oiseau qui a un plumage blanc un peu particulier. Il est tout blanc, on dirait blanc neige. Et avec du noir sur le haut, c'est le harlebièvre. Alors lui aussi, il vient des pays du Nord. Quand toute l'eau est gelée par chez lui, il vient le long du Rhin. Alors le Rhin, c'est vraiment un axe migratoire majeur pour l'Alsace. Beaucoup d'oiseaux viennent ici le long du Rhin profiter des gravières, des anciens bras du Rhin. Pour les parties plus au sud, il y a même des zones qu'on appelle le Vieux Rhin, où ils sont vraiment des dortoirs privilégiés pour ses oies et ses canards. Et donc le harlebièvre est un grand pêcheur aussi, comme le cormoran. Et il vient, tu peux le voir par groupe de 2, 3, 6, ça dépend. La femelle est plus discrète et le mâle a un plumage vraiment blanc pétant, quoi. Il a comme un bec en dents de scie, comme ça, tu regarderas. Harlebièvre.
Et toi, quelle réserve naturelle serais-tu ? Que veux-tu protéger en toi ? Tes pensées ? Tes actions ? Tes rencontres ? Ma réserve naturelle, ce sont les réflexions qui me viennent, les propos que j'entends, la musique que j'écoute de manière épidermique. Ce sont les livres que je lis, les histoires qu'on me raconte, les regards échangés, les épices qui changent tout, le chaud ou le froid. Une parole surprise en croisant quelqu'un. Tout ça m'irrigue et j'en ai besoin pour vivre. Tous ces arbres, ces prairies autour de moi et que toi tu vois aussi. Tous ces oiseaux et ces insectes s'entremêlent avec ma propre réserve naturelle, que j'entretiens moi aussi, de manière organique. si je peux pas lire, si je peux pas écouter la musique, s'il ne vient pas régulièrement des étrangers dans ces lieux, je me fane et mon intérêt pour toute chose disparaît. Oui, j'en suis venue à percevoir mon existence elle-même comme une réserve naturelle qui a besoin de sa propre biodiversité. Et c'est ma voix intérieure qui fait le lien entre toutes ces choses. Est-ce que tu souhaites domestiquer ton existence, créer des digues autour de toi qui vont te préserver des dangers qui guettent? Est-ce que tu veux renoncer à tout maîtriser afin de laisser les méandres se dessiner? À toi de décider. Ton propre esprit peut créer des champs fertiles où l'horizon s'observe à perte de vue. Ou tu peux créer de mystérieuses forêts labyrinthiques où l'eau découpe des bras inattendus. Tu peux devenir roi ou reine ou te perdre. Qu'importe pourvu que la vie soit présente en toi. Toi aussi, tu te demandes encore pourquoi je suis venue ici. Toi aussi, tu espères me voir durant cette balade. Je suis peut-être là, en effet. Mais je ne veux pas te donner trop d'espoir. Il y a peu de chances que tu me rencontres vraiment. Nous nous sommes longtemps posé la question de notre présence en ces lieux. Nous serons encore là quand tu ne seras plus là, toi.
J'ai envie que chacun essaye de d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, quoi. Bah, au lieu de tondre tout le gazon, de laisser un petit peu pousser dans un endroit. Voilà, on dit ça c'est le quartier de la nature, même si c'est 30 cm sur 30. Hein, ça peut être un pot de fleurs à l'envers pour les pinces-oreilles parce que voilà, ils ont presque plus de place, alors ils vont dans nos boîtes aux lettres, etc. Après, il y a des branches, ben, on peut laisser des branches en tas, mais pareil, ça peut être tout mini. Il y aura des animaux et des plantes qui vont venir là, sur ce mini truc-là, qu'on peut faire chez soi. Et si tout le monde fait ça, dans chaque jardin, dans chaque balcon, mais on peut espérer avoir un retour d'espèces, d'oiseaux. Voilà. Là, en l'état, on laisse plus de place à la nature. On a des grands champs cultivés, on n'a plus rien qui les sépare. Petit à petit, parce que sinon notre santé en dépend, on laisse un petit peu d'herbe au bord des rivières, parce que sinon tous les produits phyto vont arriver dans la rivière, donc dans notre robinet. Mais si on n'avait pas un risque pour nous, on ne ferait pas cet effort-là. Et c'est bien dommage, parce que si chacun faisait un petit peu, on laissait un petit mètre autour de chaque champ cultivé pour la nature, ça changerait vraiment beaucoup de choses, vraiment. Et donc ça serait ça qui serait chouette. Parce que là, nous, on essaye de tenir les humains dans la réserve pour que la nature, elle ait au moins cette place-là, mais même là, on n'arrive pas. On n'arrive pas à tout tenir ce que les hommes veulent ici.
Que vois-tu devant toi? De l'eau à perte de vue? Moi aussi, j'ai vu ce que tu vois. Mais pour moi, maintenant, l'eau n'est plus là. Je peux m'avancer et marcher. Je suis très très loin de ce qu'était le rivage. D'autres espèces d'arbres ont poussé. Il y a d'autres choses. Ne bouge plus, tu y es? Ferme les yeux. Imagine maintenant ce qu'il pourrait bien y avoir ici, plus tard. Qu'est-ce que tu vois? Tu entends. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu peux le dire? Laisse tes impressions te guider. Encore un instant. Voilà. Tu peux rouvrir les yeux. Est-ce que l'eau est toujours là devant toi? Regarde là, encore. 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 Regarde là encore. Longtemps.
Notre voyage prend fin ici. Pour retrouver l'entrée de la réserve, tu peux revenir sur tes pas ou faire le tour de la gravière. Si tu veux voir le Rhin, tu devras repasser par ici pour retrouver l'entrée. N'hésite pas à descendre visiter les petites plages qui jalonnent le chemin le long de la gravière. Mais attention, la pente peut être glissante. Quand tu seras dans la prairie, les chemins qui la traversent pourront aussi te ramener vers l'entrée. Cette balade a été réalisée par Sonia avec la collaboration du Conservatoire des espaces naturels d'Alsace. Conception, écriture, Marine Anger, Christophe Deleu, Audrey Meyer, en collaboration avec l'équipe du Conservatoire des espaces naturels d'Alsace, Blandine Scheffner, Muriel Dis et Thomas Vegel. Création et réalisation sonore, Marine Anger. Voix, Clémence Bûcher pour la fiction, Muriel Dis, qui a été notre guide pendant cette balade, et Marine Anger pour la voix off. Composition et interprétation musicale, Marine Anger, Simon D'Argent, à la guitare et aux objets, Thomas Vogel au hang. Vous avez pu écouter un extrait de la bande sonore du film Les vieux métiers de Münchhausen, dont vous pouvez retrouver le lien sur notre site. Retrouvez plus d'informations et toutes nos balades sonores sur soniapodcast.com.